Reparcourir par quelques extraits d'entretien l'actualité d'une semaine, ce n'est jamais chose aisée si vous la placez dans le cadre d'un préconclave encore moins. Mais Radio Vatican a pour vocation, quoi qu'il arrive, d'être ouverte sur le monde, contrat respecté. Ainsi avons-nous suivi l'actualité électorale du Kenya, du Liban, le drame syrien, la mort du président vénézuélien en passant par la Tunisie, le Bangladesh, le Mali et j'en passe. Hugo Chavez a donc tiré sa révérence. Comment gérer l'héritage du chavisme pour ses partisans? La question est aujourd'hui ouverte et Olivier Foz, chargé de cours à l'Université de Lorraine, membre du groupe d'études interdisciplinaire sur le Venezuela, tentait une réponse dès mercredi.
Depuis longtemps, on parlait, en fin de compte, de la possibilité d'un chavisme sans Chavez. Le moment est arrivé. C'est sûr que dans un premier temps, ça risque d'être assez compliqué, mais je pense que si dans le camp Chavez, donc de la révolution bolivarienne, ils arrivent à faire un front uni et donc à désigner un candidat, que ce soit, bon, peu importe qui, que tout le monde, enfin, qu'ils soient tous derrière pour l'amener à la présidence de la République, je pense que la révolution pourra continuer. Il faut absolument, pour eux, s'ils veulent rester en place, continuer avec cette politique sociale, tout en continuant de développer l'économie, puisqu'en fin de compte, on voit bien que le Venezuela est un pays pétrolier. À chaque fois que le cours du pétrole chute, les recettes fiscales diminuent parallèlement. Et donc, à partir de là, il aurait plus difficile de financer tous ces programmes sociaux.
La Syrie, ce drame sans fin, une catastrophe absolue à tout point de vue, les milliers de morts, les dizaines de milliers de réfugiés. Cette semaine, nous retrouvions au téléphone le père jésuite Ziad Hilal. Il s'occupe du centre Saint-Sauveur qui prend en charge 1300 enfants des différents quartiers de Homs et de différentes confessions. Il déplorait la reprise de la violence après des semaines d'accalmie.
Moi, je vois que les gens sont assez ras-le-bol. Les gens souhaitent que la situation termine, trouvent une sortie, une solution par rapport à ce qui arrive pour vivre en paix et en sécurité. Et moi, je peux dire, il y a pas mal de gens qui habitent à Homs, ça fait plus d'un an et demi qu'ils ne sont pas sortis de Homs. Bien sûr, il y a la peur de l'avenir, parce qu'on ne sait pas où on va dans le pays pour le moment.
Et si déjà le dossier syrien n'était pas assez compliqué, 21 observateurs onusiens étaient enlevés sur le plateau du Golan par des rebelles syriens. En Israël, on craint désormais le retrait des forces de l'ONU, chargées de l'observation du désengagement sur le plateau entre Israël et la Syrie, et une diminution des contingents étrangers de cette force. Une crainte fondée, nous disait Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris.
Le problème, c'est qu'on est vraiment là sur des tout petits territoires, et si ces casques bleus devait partir, par manque de sécurité suffisante, l'armée israélienne se retrouverait effectivement en face de, on ne sait pas, l'armée syrienne en principe, enfin officiellement, mais dans la région, vous savez, aujourd'hui insurgés, demain armée régulière, après-demain réfugiés, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que ça créerait une espèce de vide diplomatico-géographique qui serait, oui, bien sûr, dommageable.
John Kerry poursuivait, lui, sa prise de contact avec les grands de ce monde. Étape dans le Golfe pour le chef de la diplomatie américaine. La région est d'une importance stratégique et économique pour les États-Unis. Washington soigne depuis des décennies son précaré, obtenant des ressources énergétiques contre un soutien sécuritaire et militaire aux dynasties pétrolifères. Nous retournions sur cette relation particulière avec Karim Bitar, chercheur associé à l'IRIS à Paris et spécialiste du Proche-Orient.
C'est une région historiquement qui est l'une des assises de la projection de puissance américaine au Moyen-Orient. Les deux pays, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, sont deux alliés fidèles de l'Amérique. Ce sont deux pays qui n'ont pas encore été touchés par la vague révolutionnaire qui secoue le monde arabe. Et surtout, ce sont deux pays qui sont économiquement solides, alors que l'ensemble de la région traverse une période de crise.
Et nous parlions aussi de la Tunisie, où la crise politique au sein du parti majoritaire Ennahda est toujours d'actualité. Face à cette paralysie du pays, que fait l'Union européenne? Bien peu de choses, semble-t-il. C'est du moins l'avis de Abdel Fattah Mourou, vice-président du parti Ennahda, qui participait à une rencontre à Sant'Egidio à Rome.
Les discours que nous avons entendus sont rassurants, mais les agissements, je ne sais pas. Je crois que, surtout la France, a une grande méfiance à l'égard des islamiques, du fait qu'elle n'est pas sûre que les islamiques sont des démocrates. Elle le dit depuis longtemps. Ça ne nous aide pas à agir. J'assume que à notre droite, il y a des islamiques plus radicaux que nous. Mais pour Ennahda elle-même, elle a choisi le chemin démocratique.
Mais à la veille pratiquement du conclave, comment ne pas céder à la tentation de vous reproposer ce que nous disait à propos de l'Église et du peuple de Dieu le père Buté, modérateur de la fraternité Eucharistein et fondateur de l'Institut Philanthropos. « Je sens un besoin de prière énorme », nous confiait-il, « car l'enjeu est capital. L'Église a besoin d'un renouveau spirituel profond et de la dépense à mission évangélisatrice du monde. »
On vit dans un monde marqué par la présomption d'une humanité qui croit se construire sans Dieu, dans un désespoir, une société dépressive. La modernité avait été marquée par la liberté et l'autonomie de l'homme. Ça conduit à une servitude. La postmodernité que l'on voit apparaître aujourd'hui est une postmodernité liquide, faite d'angoisse et de barbarie. Et donc, on se rend compte qu'il y a vraiment un terrible défi, que l'Église a la réponse. Il ne faut pas qu'elle se perde en débat liturgique, en débat idéologique, mais qu'elle ramène ce regard de foi. Et donc, l'annonce prophétique de la bonne nouvelle du salut me paraît directement la réponse la plus scandaleuse et la plus guérissante pour notre monde.